Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité de Graphite, de l'actualité scientifique sur Graphite. J'y arrivais bien sûr, actualité scientifique et technique bien évidemment. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier. Et le 26 janvier 1905, il y avait la découverte en Afrique du Sud du Cullinan, qui est le plus gros diamant brut jamais découvert. C'était en 1905. Tiens, diamant, on va en parler tout à l'heure, notamment avec le carbone, on verra tout à l'heure. Le 26 janvier 1926, c'est la première séance de télévision véritable dans le laboratoire de l'ingénieur John Logie Baird. C'était à Londres en 1926, la première séance de télévision. Ça remonte déjà, hein, bientôt, on va fêter les 100 ans de cette première séance de télévision, ça peut être intéressant. Le 26 janvier, la naissance de Jean-Baptiste André Godin. Il est né donc en 1817, c'est un industriel français inspiré par le socialisme utopique. Il est l'acteur du mouvement associationniste, il est créateur aussi de la Société des poils en fonte Godin, mais également du familistère de Guise, et il est enterré justement dans le jardin de ce familistère. Il est sensible en fait à l'idée de la redistribution des richesses industrielles aux ouvriers. Il souhaite créer une alternative à la société industrielle en plein développement à son époque, et offrir aux ouvriers le confort dont seuls les bourgeois pouvaient alors bénéficier. À partir de 1859, il entreprend de créer un univers autour de son usine à implanter à Guise, et c'est donc le familistère dont le mode de fonctionnement peut être considéré comme précurseur des coopératives de production d'aujourd'hui. Il favorise le logement en construisant le palais social, qui sont des logements modernes pour l'époque, au sein duquel sont mis en place ce que Godin appelle des équivalents de richesse, et qui vise à réduire l'écart entre classes sociales. Ainsi sont mis en place des avantages sociaux, l'assurance maladie, la retraite, ainsi de suite. Un confort inédit avec un chauffage central, une distribution de l'eau, des douches, des toilettes, un éclairage au gaz, des services partagés comme la crèche, la piscine, le lavoir, et des dispositifs visant à l'éducation des habitants, des écoles, des cours du soir pour les adultes, du théâtre, ainsi de suite. Tous les acteurs de l'entreprise avaient accès aux mêmes avantages, quelle que soit leur situation dans l'entreprise. La construction du familistère de Guise s'étend donc de 1859 jusqu'en 1884, et au cours de cette période, l'activité de la manufacture se développe considérablement pour employer jusqu'à 1500 personnes. Voilà, c'était l'idée de Jean-Baptiste André Godin, né le 26 janvier 1817, et il est mort à Guise donc en 1888. Un décès le 26 janvier en 1942 à Bonn, celui de Félix Hausdorff, qui est mathématicien allemand. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la topologie moderne. Il va contribuer ainsi de façon significative à la théorie des ensembles, à la théorie de la mesure et à l'analyse fonctionnelle. Ok, on n'y comprend pas grand-chose, mais en tout cas, il est l'auteur de travaux philosophiques et littéraires aussi importants. Félix Hausdorff, un mathématicien allemand important, qui est donc mort le 26 janvier 1942. C'est aujourd'hui la journée internationale de la douane. Tiens, c'est assez intéressant. Tout simplement pour commémorer la création de l'Organisation mondiale des douanes. C'était le 26 janvier 1953. Journée internationale de la douane, voilà, aujourd'hui. Depuis début janvier, ces journées internationales, on ne les voyait pas, là, les différents samedis de cette émission. Mais donc aujourd'hui, voilà, c'est la journée internationale des douanes. Bon, bah, écoutez, ça peut être intéressant, pourquoi pas. On parlait du diamant tout à l'heure, hein, ce gros, plus gros diamant brut qui n'avait jamais été découvert. C'est en 1905. Diamant, ça veut dire carbone, qui est l'élément le plus important de la vie. Et donc, dans le cadre de cette année internationale du tableau périodique des éléments, eh bien, vous le savez si vous suivez cette émission depuis début janvier, on s'arrête, voilà, chaque semaine sur un élément périodique de ce tableau. Et donc là, on va donc s'arrêter sur le carbone, l'élément le plus important de la vie, présent aussi bien dans les pierres précieuses que dans les mines de crayons sous la forme de graphite. Tiens, mon Dieu, ça a vraiment un lien avec notre radio favorite. Ou encore dans les matériaux de haute performance sous forme de fibres. Le diamant, donc transparent, isolant, est le matériau le plus dur connu, Le graphite noir, bon conducteur, est lui plutôt friable, et tout cela, c'est du carbone. Le graphène vient depuis 2004 s'ajouter aux formes connues du carbone. Cette découverte a valu à André James et Konstantin Novoselov un prix Nobel en 2010 et de grandes avancées quant aux propriétés des matériaux du futur. Les diamants, eux, sont formés sous terre, dans des conditions de pression et de température extrêmes. Le plus gros d'entre eux, donc, a été découvert, comme je vous l'ai dit, en 1905. C'était en Afrique du Sud. Il pesait pas moins de 3106 carats, ce qui représente à peu près 600 grammes. C'est vrai que c'est pas mal avoir un diamant de 600 grammes sur sa bague. Ça doit être un petit peu trop lourd. En tout cas, son nom vient du latin carbo, qui signifie charbon, bien sûr. Un domaine d'étude complet lui a été consacré. C'est la chimie organique. Le carbone, par son isotope 14, carbone 14, est utilisé, bien sûr, en datation. Il est présent naturellement dans les organismes vivant, et une fois mort, il cesse de se renouveler. C'est cette espèce de décroissance lente, uniforme, qui va permettre de déterminer la période à laquelle l'organisme a cessé de vivre. Et grâce à lui, grâce au carbone 14, on peut retracer l'histoire sur environ 50 000 ans. C'est quand même assez intéressant. Voilà, c'est le carbone. Le symbole, c'est la lettre C, tout simplement. Et il a le numéro atomique 6. Voilà, c'était le carbone dans le cadre donc justement de cette année internationale du tableau périodique des éléments. Toutes les semaines dans cette émission, on va s'intéresser à un élément chimique. Après donc, on a commencé par l'hydrogène, le néon, le fluor, maintenant le carbone, et puis on continuera voilà, peut-être à s'intéresser à des éléments chimiques un peu moins connus, mais vraiment totalement indispensables dans notre environnement, bien sûr. De nos jours, les données qui concernent les volcans du monde ne manquent pas. Au contraire, les chercheurs semblent totalement noyés sous le feu des informations que l'on s'en fournit, notamment par les satellites. Eh bien, la mise au point de deux algorithmes pourrait bien les aider à faire un petit peu le tri et leur permettre de développer un système mondial d'alerte d'éruption volcanique. Le premier algorithme travaille à partir des images haute résolution qui sont transmises par les satellites. Il apprend ainsi à détecter des changements, même des changements infimes dans les mouvements du sol, des changements qui trahissent des déplacements de magma sous un volcan. Un déplacement de magma ne signifie pas nécessairement l'imminence d'une éruption, hein, c'est ce que prévient Andrew Hooper, volcanologue à l'université de Leeds au Royaume-Uni, mais il y a rarement éruption sans déplacement de magma. Le second algorithme correspond à un réseau de neurones convolutifs tels que ceux imaginés dans la reconnaissance d'images, et ce type d'intelligence artificielle est capable de trier des images parfois plus efficacement qu'un humain. Et donc ici, les chercheurs de l'université de Bristol au Royaume-Uni lui ont appris à distinguer les images qui vont annoncer des éruptions. Donc pour l'heure, cet algorithme rend toujours entre environ 20 à 60% de faux résultats, donc ce n'est pas encore totalement parfait, mais ses performances vont s'améliorer avec le nombre de photos qui vont être analysées au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on est dans le cas d'une intelligence artificielle, donc il va apprendre et s'améliorer au fur et à mesure. Et même s'il faut encore quelques semaines pour que les images satellites soient traitées, c'est un premier pas impressionnant qui pourrait révolutionner la détection des éruptions volcaniques. C'est ce qu'assure Michael Pollan, un géologue américain également. Mais donc voilà, l'intelligence artificielle qui pourrait prédire les éruptions volcaniques. Ça semble assez intéressant et ça semble assez prometteur à faire à suivre, donc bien sûr, dans le cadre de cette émission Biotine. Vous nous écoutez sur l'antenne de Graphite, soit grâce à la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, mais également sur le site internet graphite.net pour ceux qui nous écoutent soit en direct, soit en différé, en utilisant par exemple les différents podcasts de cette émission. On va écouter un titre tout de suite, on va écouter Lizzy Strata avec The Thread sur l'antenne de Graphite, et on se retrouve juste après pour continuer à feuilleter l'actualité scientifique et technique du monde entier. Mon Dieu, on va partir très très loin, je pense, pour cette émission. À tout de suite.
sweating deep beneath the sheets. My bed's tight like a shoelace, but I bit my fingernails right to the skin, and I feel myself spinning. It's so hard to rest when the walls keep screaming at me. I find it hard to sleep. There's a strobe in my mind every time I shut my eyes. There's a light bulb in my mouth and a battery in my throat, waiting for it to burn out, but there's a battery in my throat. There are ashes on my tongue and burning in my lips. There's burning in my lips, there's a burning in my lips.
Eh bien, moi, je dis ça déménage, tout ça. C'était Lazy Strata avec Fred sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine. Ah, ça nous a mis une pêche dans le studio, c'est génial. Vous écoutez donc Biotine, l'émission de science, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. On feuillette un petit peu l'actualité scientifique et technique pour essayer de nous tenir informés un petit peu de ce qui se passe dans les différents laboratoires. C'est vrai qu'il y a pas mal d'annonces faites par différents médias et on peut voilà consulter assez régulièrement des sites vraiment bien faits comme Science et Avenir, Futura Science, Technoscience, qui nous permettent de nous tenir informés un petit peu de ces différentes découvertes qui nous concernent et qui vont concerner notre quotidien dans un avenir assez immédiat. Alors, par exemple, cette étude qui nous vient de chercheurs de Harvard. Si vous touchez une plaque chaude, vous avez le réflexe immédiat de retirer, bien sûr, votre main. Et un peu plus tard, si vous êtes brûlé, vous allez chercher à apaiser la douleur en soufflant, par exemple, dessus. Eh bien, c'est une étude parue dans la revue Nature qui s'est intéressée au circuit nerveux impliqué justement dans cette seconde phase de gestion de la douleur. Cette équipe avait déjà proposé, il y a quelque temps, qu'il existe deux sortes de neurones sensoriels de la douleur, ou des neurones qu'on appelle des nociceptifs. Les premiers sont reliés aux couches superficielles de la peau et les seconds à des couches plus profondes, mais aussi aux os, aux articulations et aux muscles. Donc le premier groupe de neurones participe à la réponse immédiate de la douleur et le second, il va intervenir dans les douleurs persistantes un peu plus profondes. Les chercheurs ont créé des souris qui n'avaient pas un certain type de neurone excitateur de la moelle épinière et habituellement ces neurones expriment un gène et donc les souris modifiées avaient toujours les réflexes qui leur permettaient de retirer leurs pattes en cas de douleur, mais en cas de brûlure ou de blessure, elles ne léchaient pas leurs pattes qui avaient été un petit peu touchées et elles ne soignaient pas leurs plaies. Les neurones qui expriment ce gène doivent donc servir à gérer cette douleur à long terme. Les chercheurs ont ainsi trouvé des neurones nociceptifs de la peau qui envoient des messages à d'autres neurones de la moelle épinière et ce message arrive ensuite dans des noyaux du thalamus, une région sensorielle située à la base du cerveau. Ces résultats pourraient avoir des applications dans les tests des médicaments antidouleurs, car souvent ces expériences évaluent le réflexe de retrait de la patte de l'animal face à la douleur, mais ils ne tiendraient pas compte de la suite, justement. Et il faudrait aussi tester la façon dont l'animal gère sa douleur plus tard. Pourrait expliquer que des médicaments qui semblent efficaces chez la souris ne le sont pas chez l'homme d'ailleurs. Et donc voilà, un nouveau circuit neuronal identifié dans le cadre de la douleur, des résultats qui pourraient permettre d'améliorer les tests des médicaments antidouleurs réalisés sur des animaux. Assez intéressant et qui nous donne voilà, des débouchés vraiment importants dans le cadre du traitement de la douleur. Aucun lien, on va parler des airbags, les coussins gonflables de sécurité qui sont désormais omniprésents dans l'habitacle des véhicules récents. En 2015, Google avait déposé un brevet pour un concept d'airbag externe qui était censé protéger un piéton s'il venait à être percuté par une voiture. Et l'idée n'a pour le moment pas vu le jour du côté de Google. En revanche, l'équipementier automobile allemand ZF planche sur un concept un peu similaire dans son principe, mais à la finalité totalement différente. Il s'agit d'un airbag externe latéral qui couvre la moitié inférieure des portières et le bas de caisse. L'idée, c'est ce qu'explique l'entreprise, ça serait d'ajouter une couche de déformation supplémentaire qui, d'après les premiers tests, pourrait aider à réduire la gravité des blessures des occupants jusqu'à 40% en cas de collision latérale avec un autre véhicule. L'airbag en lui-même et son système de gonflage reposent sur des technologies existantes. Le plus gros du travail de développement porte en fait sur les technologies matérielles et logicielles pour détecter l'imminence d'un impact latéral et pouvoir déployer le système à bon escient. Tu m'étonnes, il ne faudrait pas non plus que l'airbag latéral se mette à se mettre en place quand il n'y en a pas besoin. Un défi compliqué puisqu'il faut éviter les multiples scénarios susceptibles de provoquer donc des faux résultats si on vient par exemple à se garer trop près d'une voiture. Tu m'étonnes, ça serait pas génial. Et donc pour cela, cet équipementier allemand ZF combine un ensemble de radars, de caméras et tout cela associé à une espèce d'algorithme prédictif. L'airbag peut être déployé en 100 millisecondes avant l'impact, donc moins d'une seconde, c'est ce qu'assure l'entreprise. Sa mise sur le marché pourrait intervenir d'ici 2 ans, le temps de l'améliorer. Mais voilà, on aurait peut-être bientôt des airbags extérieur pour les voitures dans les cas de collision. Je sais pas, ça m'intrigue un peu, pour être totalement honnête avec vous, ça m'intrigue un peu pour savoir l'efficacité de cela. Et c'est surtout, enfin, je vous êtes en train de rouler à grande vitesse, pour une raison ou pour une autre, vous effleurez quelque chose qui n'a aucune incidence, mais du coup l'airbag se met en route. Je sais pas ce que ça donne sur la voiture quand vous roulez à grande vitesse. À voir. Mais en tout cas, voilà, on essaiera d'en savoir un peu plus, bien sûr, parce que ça peut maintenant peut-être être assez intéressant si on arrive, bien sûr, à pouvoir essayer de mettre en place quelque chose de vraiment efficace. Comme on parle des voitures, on va parler des voitures électriques et cette popularité totalement croissante de ces voitures électriques qui fait apparaître de nouveaux équipements dans nos maisons, par exemple la borne de recharge électrique. Et sur le marché qui est en pleine expansion, eh bien, beaucoup de constructeurs ajoutent diverses fonctions pour se démarquer de la concurrence. L'une des plus courantes, c'est l'accès à distance pour gérer la recharge. Des chercheurs de l'éditeur d'antivirus Kaspersky ont décidé d'utiliser justement l'un de ces appareils, de mener des études sur cet appareil qui va opter pour une borne de recharge d'une certaine marque, et l'équipe a pu accéder à 2 commandes en particulier. La seule condition nécessaire était d'obtenir un accès au réseau Wi-Fi sur lequel la borne est connectée. On a détecté une faille de sécurité dans les chargeurs de voitures électriques. C'est ça l'annonce. Cette faille de sécurité pourrait permettre à un pirate de causer d'importants dégâts matériels chez la victime. C'est aussi important, ils ont pu mettre en pause la charge, donc l'unique conséquence serait d'empêcher la victime de conduire sa voiture. La seconde commande est plus inquiétante parce qu'ils ont pu régler le courant au maximum, et selon la manière dont l'appareil a été installé, cela pourrait faire sauter les disjoncteurs, priver tout ou partie de la maison de courant, et en cas de surchauffe des câbles, il y aurait des conséquences qui seraient beaucoup plus graves, avec notamment un risque d'incendie. Les chercheurs ont communiqué leurs résultats au constructeur qui a publié une mise à jour pour corriger les failles. Ok, cependant, cette étude n'a porté que sur une seule marque. Alors, il y a fort à parier que des failles similaires existent chez d'autres constructeurs. La solution serait donc d'opter pour des modèles sans accès à distance ou à défaut de s'assurer d'installer toutes les mises à jour régulièrement. Mais voilà, c'est assez inquiétant. Cette faille de sécurité dans les chargeurs de voitures électriques à distance qui a été été constatée. Oui, évidemment, je veux dire, faut pas se leurrer maintenant. Quand vous faites une connexion à distance, dans l'absolu, tout le monde peut se connecter. Et parfois pour des finalités un peu malveillantes, bien sûr. C'est évident, je ne vous apprends rien, mais voilà, ça peut être assez inquiétant à voir, bien sûr, pour la suite. Allez, on va écouter Norma, ça va être un petit peu plus calme. Lost and Found sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Lost and Found, c'était Norma sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h afin de vous tenir informés de l'actualité scientifique et technique, mais également médicale, et vous avez bien raison. On va parler de l'infertilité masculine. En France, environ un couple sur 10 consulte un jour pour un problème d'infertilité. Chez l'homme, un nombre insuffisant de spermatozoïdes dans le sperme, des anomalies des spermatozoïdes peuvent favoriser l'infertilité. Or, différents facteurs affectent la qualité, justement comme le tabagisme, la consommation d'alcool, des facteurs environnementaux comme les pesticides, la pollution ont aussi été évoqués, mais les ondes électromagnétiques liées à nos usages des nouvelles technologies influencent-elles justement cette infertilité ? Il y a un article paru dans la revue Reproductive Biology and Endocrinology qui fait le point sur cette question. Cet article a été rédigé par 3 scientifiques internationaux, un chercheur de l'université finlandaise, un américain et un professeur d'Afrique du Sud. Les auteurs se sont intéressés aux champs électromagnétiques qui, dans la vie de tous les jours, sont générés par des appareils comme le smartphone, le Wi-Fi, le téléphone portable, la radio, le four à micro-ondes et ainsi de suite. Les pollutions générées par cet environnement électromagnétique sont souvent regroupés sous le terme d'électrosmog. En 2011, le Centre international de recherche sur le cancer a classé les radiofréquences comme peut-être cancérogènes pour l'homme en raison d'un risque accru de gliome lié à l'utilisation du téléphone sans fil. Les auteurs se sont appuyés sur une 15aine d'études portant sur l'homme, sur le rat, sur la souris et d'après eux, l'utilisation fréquente de téléphones portables ou d'appareils électromagnétiques contribue considérablement à la mauvaise qualité du sperme. Les radiofréquences ont un effet néfaste sur le nombre de spermatozoïdes, sur leur morphologie et leur motilité. La motilité, c'est le fait qu'ils puissent se déplacer. Les auteurs citent par exemple une étude qui avait porté sur un peu plus de 350 hommes qui avaient été séparés en 4 groupes en fonction de leur usage du téléphone portable. Et cette étude avait conclu que l'utilisation du téléphone portable diminuait la qualité du sperme en réduisant le nombre, la motilité, la viabilité, la morphologie normale des spermatozoïdes. De plus, la diminution des paramètres du sperme dépendait de la durée d'exposition quotidienne au téléphone portable. Il y avait une autre étude sur des rats exposés 7 heures par jour pendant une semaine. Un ordinateur portable connecté en Wi-Fi a montré également une baisse du nombre de spermatozoïdes et de leur motilité. Cependant, le mécanisme par lequel les radiofréquences affectent les organes reproducteurs masculins n'est pas clairement identifié. Les auteurs suggèrent que le stress oxydatif généré par l'exposition aux radiofréquences participe au phénomène. On n'en sait trop rien, il pourrait aussi y avoir un effet sur la production de testostérone. Il y avait une autre étude qui avait porté sur des rats et qui avait trouvé qu'une exposition d'une heure par jour au téléphone portable pendant 3 mois réduit le taux de testostérone dans le sang. Or, cette hormone est indispensable à la formation des spermatozoïdes. Enfin, chez des rats, il y a eu des dommages à l'ADN qui ont aussi été observés après l'exposition aux ondes électromagnétiques. Voilà, c'est plusieurs études qui ont été condensées dans cet article rédigé par 3 scientifiques internationaux et donc qui mettent en cause les ondes électromagnétiques dans le cas de l'infertilité masculine. C'est pas la première fois qu'on en parle, ça revient un petit peu sur le sujet évidemment, parce que on commence à avoir un petit peu plus de recul maintenant sur l'utilisation des téléphones portables, du Wi-Fi, de toutes ces ondes qui nous entourent. Et maintenant, avec les années, voilà, on peut avoir un recul maintenant et avoir des études un petit peu plus poussées et donc un peu plus, je dirais, comment dire, je n'allais pas dire efficaces, mais en tout cas pertinentes et dont les résultats sont quand même plus sérieuses que des études qu'on avait fait tout de suite au début, l'utilisation de ces nouveaux outils. Mais voilà, maintenant, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, notamment dans cette émission. Ça revient encore avec cet article récemment. Et donc, voilà, il y a une prise de conscience qu'il faudrait peut-être avoir sur l'usage un petit peu, comment dire, un petit peu accéléré justement de ces nouvelles technologies. Toujours au niveau médecine, cet article qui nous parle de cette petite fille qui est née au Brésil, c'était en 2017, à 35 semaines de grossesse. Sa maman n'avait pas d'utérus de naissance à cause d'un syndrome particulier et à 32 ans, la maman avait subi une greffe d'utérus. La donneuse était décédée à 45 ans d'un AVC et cette donneuse avait connu 3 accouchements par par voie vaginale. Et donc l'opération de greffe a duré 10h30. Il y a eu un traitement également immunosuppresseur qui a été mis en place pour éviter le rejet. 5 mois plus tard, la patiente avait donc des cycles réguliers. Ses premières règles étaient apparues 37 jours après la greffe. On en avait parlé dans cette émission, ça date donc de 2017. 4 mois avant la greffe, la patiente avait suivi un protocole de fécondation in vitro qui avait permis d'obtenir 8 embryons qui ont été congelés et donc on a pu, 7 mois après la greffe, prendre l'un de ces embryons congelés qui a été implanté dans l'utérus et 10 jours après l'implantation, la grossesse de la patiente a été confirmée. Au moment de la naissance par césarienne, l'utérus greffé a été retiré, puis le traitement immunosuppresseur a été suspendu. Lorsque les auteurs ont rédigé leur article pour The Lancet Medical Journal, le bébé avait plus de 7 mois. Elle allait bien, elle était toujours allaitée, elle pesait 7,2 kg. C'était donc fin décembre 2017. Cette première mondiale apporte une lueur d'espoir aux femmes souffrant d'infertilité pour des causes utérines. Une grossesse viable est possible avec un utérus d'une donneuse décédée. C'est quand même assez bluffant. 10 autres greffes d'utérus de donneuse décédée ont été tentées aux États-Unis, en République tchèque, en Turquie. Aucune n'a donné lieu à une naissance vivante. Ce serait donc le premier cas de greffe d'utérus réussi et c'était en Amérique latine, au Brésil précisément. D'autres greffes d'utérus ont été décrites avec une donneuse vivante provenant de la famille de la receveuse ou de son cercle d'amis proches. Or, le nombre de personnes susceptibles de donner leurs organes à leur mort est plus élevé que celui des donneuses vivantes potentielles, bien sûr. De plus, le recours à une donneuse décédée permet d'éviter des complications à une donneuse vivante. Parmi les couples concernés par des problèmes d'infertilité, une femme sur 500 souffre d'une anomalie de l'utérus. L'infertilité utérine peut être due à une infection congénitale, une malformation de naissance ou être la conséquence d'une hystérectomie ou d'une infection utérine. En 2013, on nous rappelle dans cet article de Futura Science, en Suède est né le premier bébé issu d'un utérus greffé provenant d'une donneuse vivante. Ensuite, il y a eu 39 autres tentatives similaires qui ont donné lieu à 11 naissances vivantes. Mais donc dans ce cas-là, au Brésil, c'est le premier bébé qui naît grâce à un utérus greffé qui provient d'une donneuse décédée. Voilà, ça a été annoncé et confirmé il y a quelques jours. On va continuer, du coup, on va écouter un titre et puis on va terminer cette émission tranquillement avec rien que le titre déjà est assez évocateur. Un babouin survit 6 mois avec un cœur de cochon. Quand on a dit ça, je pense qu'on peut tout écouter. Allez, on va écouter notamment Sage comme des sauvages sur l'antenne de Graphite et après on va essayer de s'intéresser à ce fameux babouin.
Je à la fin à peu près. Tout s'arrange pas comme je le croyais.
Laila Como, c'était Sage comme des sauvages sur l'antenne de Graphite. La transplantation cardiaque est parfois le seul traitement possible pour des personnes qui souffrent d'une insuffisance cardiaque grave et chez qui les autres traitements ont échoué, bien sûr. En France, en 2016, il y a eu 477 greffes de cœur et 576 nouveaux patients étaient inscrits sur liste d'attente d'après l'agence de biomédecine. Comme les donneurs sont peu nombreux, il y a des chercheurs qui réfléchissent à la possibilité d'utiliser des cœurs d'animaux comme le cochon et donc de pratiquer ce qu'on appelle des xénogreffes, c'est-à-dire des greffes entre espèces différentes. Et bien, cette nouvelle étude a été menée par l'université de Munich entre février 2015 et août 2018. Ce n'est pas la première fois qu'on a greffé un cœur de porc sur des babouins, mais pour la première fois, c'est ce que notent les auteurs. Malgré 25 années de recherche approfondie, la survie maximale d'un babouin après le remplacement du cœur par une xénogreffe de porc n'était que de 57 jours et ceci n'a été atteint à notre connaissance qu'une seule fois, nous dit ces chercheurs à l'université de Munich. Et bien là, on a pu survivre, en tout cas ce babouin a pu survivre 6 mois. 14 cœurs de jeunes porcs ont été greffés sur 14 babouins adultes. Les animaux donneurs ont subi des modifications génétiques afin de ne pas exprimer des molécules susceptibles de provoquer un rejet et d'empêcher des réactions immunitaires. Plusieurs protocoles ont été testés pour perfectionner la technique. C'est ce qui a été décrit notamment sur CNN. Les babouins qui ont le mieux survécu ont eu des antihypertenseurs car les cochons ont une pression sanguine plus basse que les babouins. Ils ont aussi eu un traitement qui évite que le cœur grossisse car les cœurs greffés avaient tendance à gagner du poids. Et donc parmi les 5 babouins qui ont suivi ces traitements particuliers, il y en a un qui a vécu donc 6 mois, 182 jours et un autre 195, des travaux qui doivent être faits pour savoir si ces cœurs de porc génétiquement modifiés peuvent être greffés chez l'homme, bien sûr, en tenant compte des problèmes de rejet liés aux xénogreffes. Mais voilà, ça reste assez prometteur dans le cadre donc de la greffe de cœur. Un babouin survit 6 mois avec un cœur de cochon, c'est le titre de cet article de Futura Science. C'est ça, Biotine, l'émission de science sur l'antenne de Graphite que vous écoutez tous les samedis. On parle voilà, de choses qui nous paraissent au départ totalement ubuesques, mais qui, après avoir peut-être un peu réfléchi, on se dit que ça peut être assez prometteur, même si au départ, ça n'est pas totalement naturel, bien sûr. Je ne sais pas comment on peut vivre si on se fait greffer un cœur de cochon quand on est un être humain, je n'en sais rien. C'est vraiment des vraies questions qu'il faut se poser. Bien sûr, des questions d'ordre éthique, parce que là encore, on se rend bien compte que d'un point de vue technique, on va y arriver. On va y arriver. Il y a eu quelques difficultés là pour cette expérience, mais on va y arriver. Et maintenant, c'est d'ordre éthique, de bioéthique, bien sûr, qu'il va falloir s'intéresser un petit peu plus dans les prochaines années qui sont devant nous, bien sûr. On parle encore d'énergie dans cette émission. Vous savez, si vous êtes fidèle de cette émission, on parle très souvent d'énergie parce que ça va être l'un des enjeux vraiment importants de notre civilisation. L'énergie, là, on va parler de, du photovoltaïque, des panneaux solaires. Aujourd'hui, c'est la Chine qui domine le marché mondial des panneaux solaires. Et c'est en 2013 que l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France a été labellisé Institut pour la transition énergétique. Alors, ça regroupe des partenaires académiques, LCNRS bien sûr, il y a des grands industriels également qui sont impliqués et début janvier a eu lieu sur le plateau de Saclay, donc en région parisienne, l'inauguration de ce nouveau institut photovoltaïque d'Île-de-France et l'idée c'est donc de concurrencer la Chine et la France a choisi de miser sur l'innovation. Aujourd'hui, la filière silicium compte pour près de 95% des marchés des panneaux solaires, mais à l'avenir, il sera possible de produire des cellules photovoltaïques de rupture à des coûts acceptables, c'est ce qu'assure Jean-François Minster, président de cet institut photovoltaïque. D'ailleurs, cet institut s'est fixé un objectif ambitieux qu'on va appeler les 30-30-30, c'est-à-dire 30% de rendement à 30 centimes de dollars le watt en 2030. On suivra ça, bien sûr, on verra si l'objectif est atteint. En tout cas, les technologies de rupture qui intéressent le plus les chercheurs français sont celles liées aux cellules tandem. L'idée, c'est d'associer une cellule à base de silicium à une cellule à pérovskite ou encore des cellules à base de matériaux particuliers qui vont permettre d'optimiser les rendements et les derniers résultats de l'Institut vont dans ce sens. Les chercheurs ont récemment pu atteindre un record d'efficacité de conversion de 18%. Donc on va atteindre bien sûr bientôt les 30%. La course à la recherche n'est pas perdue et si nous parvenons à atteindre les performances que nous visons, il y aura certainement matière à valorisation. Sur le marché, il y a déjà de la place pour les panneaux solaires plus performants sur lesquels nous travaillons. C'est ce que évoque Bernard Sala, directeur de la recherche et développement chez EDF. Mais en tout cas, voilà, la France mise sur la recherche sur le photovoltaïque, l'une des possibilités qui va être proposée au niveau de la transition énergétique. Et donc, on va pouvoir regarder un petit peu plus de près et suivre cette actualité de cet institut photovoltaïque d'Île-de-France pour voir voilà, un petit peu mieux les recherches qui vont être proposées et en tout cas suivi par les chercheurs de cet institut parce que voilà, ça va être un véritable enjeu, un véritable défi qu'il va falloir relever au niveau de la transition énergétique bien sûr. Allez, on va écouter un dernier titre pour terminer cette émission et puis on s'intéressera, comme nous sommes en plein hiver et qu'il fait un peu froid, il paraît qu'on boit plus d'alcool dans les pays froids et sombres. Oh, je ne peux pas le croire ça, après tout, on boit de l'alcool un peu partout, non? Allez, qu'en pense Adam Nas sur l'antenne de Graphite? On va l'écouter et puis juste après on terminera cette émission. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
We're both on the shore. You're killing me, you holding me down. You call me for sure. You're killing me, you're holding me down. Little talks for the better. Tap, tap on your shoulder. I feel the love, but it's over. I go down, down, down. Black straps going under. My skin getting older. Feel the love, but it's over. I go down. We shared all our thoughts. You breaking me, you holding me down. Red lips but harder. Long hair swing better. I felt love but it's over. I go down, down, down. Thick blood on a finger. Together wilder. I felt love but it's over. I
go down.
Fading Away, c'était Adam Nas sur l'antenne de Graphite. Biotine vous permet tous les samedis entre 12h et 13h de vous tenir informé de l'actualité scientifique. Vous écoutez cette émission qui dure une heure, soit sur le 94.9 sur la bande FM, pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, la Somme et l'Oise, et graphite.net sur Internet, partout dans le monde, où que vous soyez, même peut-être dans la Station Spatiale Internationale, je n'en sais rien. En tout cas, vous avez la possibilité de nous écouter en direct ou en différé, parce que vous avez eu la géniale idée de pouvoir télécharger les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Quelle chance vous avez! On va terminer cette émission avec donc cette petit article pour terminer en beauté. On se souvient peut-être de cette phrase d'Emmanuel Macron. Il est alors candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes en janvier 2017 et il était en visite dans le Pas-de-Calais. Et il disait « Dans ce bassin minier, il y a beaucoup de tabagisme et d'alcoolisme ». C'est une phrase maladroite qui avait fait couler beaucoup d'encre, mais qui, plusieurs études en attestent, traduisent pourtant bien une certaine réalité. Une réalité à en croire des travaux menés par des chercheurs de l'université de Pittsburgh aux États-Unis, qui seraient plus liés toutefois aux conditions climatique local qu'à une situation sociale. Les médecins hépatologistes de cette équipe de chercheurs, des hépatologistes, c'est ceux qui s'intéressent aux maladies du foie, hépato, donc on est bien dans l'idée du foie, également les maladies des voies biliaires et de la rate, et bien ces médecins avancent en effet que la consommation d'alcool a tendance à augmenter à mesure que les températures et l'ensoleillement diminuent. Pourquoi les Russes boivent-ils autant d'alcool ? Et les habitants du Wisconsin, jusqu'alors nous étions nombreux à supposer que ce soit à cause du froid, et bien notre étude est la première à montrer scientifiquement qu'en effet, partout où il fait plus froid, les gens consomment plus d'alcool et souffrent plus de cirrhose alcoolique. C'est ce qu'affirme ainsi Ramon Bataler, professeur de médecine à l'université de Pittsburgh. Alors il est important de souligner que les chercheurs ont pris soin de nettoyer autant que possible leurs statistiques des autres facteurs connus pour influencer la consommation d'alcool. Ainsi, une grande partie du monde arabe désertique ne consomme pas d'alcool pour des raisons religieuses, mais les résultats de l'équipe de l'université de Pittsburgh restent les mêmes, y compris en excluant ces pays majoritairement de confession musulmane. Et donc, pour les expliquer, les chercheurs avancent le fait que l'alcool est un vasodilatateur. Il augmente donc le débit sanguin, et un tel flux de sang chaud circulant sous la peau qui regorge de capteurs de température, eh bien tout cela augmente la sensation sensation de chaleur et par ailleurs, la consommation d'alcool est régulièrement liée à des états dépressifs, des états qui ont tendance à se multiplier ou s'aggraver lorsque le soleil se fait rare et que la température baisse. Ces résultats pourraient permettre de concentrer les efforts des politiques publiques, y compris au sein d'un pays, de lutte contre l'alcoolisme et les maladies qui s'y rattachent sur les zones géographiques les plus climatiquement, entre guillemets, un risque. Mais en tout cas, voilà, on boit plus d'alcool dans les pays froids et les pays sombres. Cette étude de ces chercheurs à l'université de Pittsburgh nous le confirme maintenant. Donc voilà, on va pouvoir... maintenant, on le sait, ça ne nous avance pas grand-chose. Mais en tout cas, ça a été confirmé. Donc on verra par la suite s'il y aura des politiques publiques qui vont être menées. On suivra ça, bien sûr. Il y a plein de choses à suivre au niveau de cette actualité scientifique depuis ce début d'année 2019. On a tout au long de ce mois de janvier, je me crois déjà en juillet, j'ai envie d'être en vacances, ça me fait peur. Mais voilà, tout au long du mois de janvier, on a pas mal évoqué certaines annonces de laboratoires scientifiques où on se dit, ben oui, c'est intéressant. Et maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, on suivra tout ça, bien sûr, comme on le fait depuis plusieurs années dans cette émission Biotine, l'émission de science de graphite, tous les samedis entre 12h et 13h. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission où on continuera, voilà, à feuilleter l'actualité scientifique. D'ici là, vous pouvez bien sûr vous rendre dans différents musées scientifiques pour découvrir des expositions, participer à des conférences également, pour pouvoir vous informer de par vous-même de l'actualité qui se fait dans les laboratoires de recherche également. Il y a bientôt la semaine de l'industrie, je crois que c'est en mars également. Ça permet d'avoir un petit peu une vision assez concrète et assez réaliste de ce qui se fait en termes de recherche et développement au niveau de la technologie, bien sûr. On pourra s'intéresser à cela, je crois que c'est en mars, on l'évoquera bien sûr dans cette émission. Je vous remercie de votre fidélité depuis tant d'années. On se retrouve la semaine prochaine à 12h sur l'antenne de Graphite, juste après Vibra SOS, bien sûr. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne journée. À samedi prochain, à bientôt. Au revoir.